two, get down.
Bonjour à tous et à toutes, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Pay the cost to be the boss. Pay the cost to be the boss. I pay the cost to be the boss. Look at me, you know what you see.
Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop. Nous sommes comme chaque semaine très heureux de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Alors, nos auditeurs réguliers, les aficionados, comme on les appelle, de Thérapie Pop, risquent d'être un peu déboussolés cette semaine. Parce que, vous le savez, la deuxième semaine du mois, on parle généralement d'un tube qui a fait les grandes heures de l'histoire du rock ou de la pop. Mais l'été arrive et chaque jour nous rapproche un peu plus de cette saison bénie. Et à mesure que les jours s'allongent, on lâche un peu la bride. Et c'est ainsi que Gauthier a décidé de déroger à notre rituel du tube mensuel pour nous parler d'un groupe dont l'esprit estival colle à la peau. Et puis, moi, je le connaissais pas ce groupe. Alors, comme des devoirs de vacances avant l'heure, il a tenu à me faire bosser un peu plus que d'habitude. Et Gauthier, je t'en remercie chaleureusement car c'est une belle découverte. Le groupe dont on va vous parler aujourd'hui a pondu 5 albums, parsemés de petits bonbons plus suaves les uns que les autres. Ce groupe c'est Real Estate et aujourd'hui on va évoquer principalement les 3 premiers albums du groupe intitulés respectivement Real Estate, Days et Atlas. Et comme à l'accoutumée pour notre plus grand plaisir, c'est toi Gauthier qui nous accompagnera dans cette thérapie dédiée à ce groupe indé qui était passé sous mes radars. Salut!
Salut Théo, et effectivement il y a quand même un esprit de saison puisque je pense que c'est un très bon groupe pour tes soirées au bord de la plage avec ton petit mojito.
Exactement.
Ça coule de source.
Alors à ma décharge, les groupes indés sont légion, vous le savez, et on ne peut pas tous les connaître et encore moins vous en parler. Pour info, je suis allé sur leur fiche Wikipédia, ou plutôt, devrais-je dire, leur post-it Wikipédia, puisqu'il n'y a que 4 lignes, c'est authentique. Gauthier m'aura fait remarquer que c'est sur la version française, la version américaine est bien plus détaillée, je te l'accorde. Il n'en reste pas moins qu'on a 4 lignes sur la version française. Ça n'enlève rien à la qualité de leur musique, et je vous propose que l'on s'en rende compte tout de suite en s'écoutant la première piste de Days, intitulée Easy.
We'll be right back.
Chers amis, vous êtes bien sur Radio Présence, que vous êtes bien et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on vous parle d'un petit groupe américain qui gagne à être connu, Real Estate. Et justement, Gauthier, afin de mieux les connaître, si tu nous les présentais, je te propose de commencer par le Stéphane Plaza de la bande.
C'est absolument un Stéphane Plaza. Pour les moins anglais d'entre nous, enfin les moins anglophones, oui. fun, d'entre nous, effectivement, Real Estate veut dire agence immobilière en anglais. Et le chanteur, guitariste, et probablement on peut le considérer comme le leader du groupe, Martin Courtney, avait effectivement des parents qui dirigeaient une petite entreprise immobilière. Lui-même a sa licence immobilière, puisqu'un temps, il était question éventuellement d'embrasser la prodigieuse carrière d'agent immobilier. Il a bien fait de s'éviter ça, notamment parce que c'est un très bon musicien. Il avait même réussi à vendre la maison de sa propre grand-mère, ce qui est quand même...
Ah bah il avait un certain talent.
Et autre fun fact pour dire qu'il était musicien avant Real Estate, il a été, là aussi tu parlais de rock indie, on pourrait même parler de punk indie, il a été claveriste dans le groupe Titus Andronicus, certains connaissent, je pense. C'est un groupe assez connu des années 2010, on va dire.
J'en ai jamais entendu parler de
C'est un groupe assez connu.
D'accord.
Enfin, en indie.
J'entends bien. Et comme je le disais dans l'édito, ils sont légion, on ne peut pas tous les connaître.
Ce brave homme est accompagné d'Alex Blicker à la basse et au chant également, Matt Kalman au clavier, Julian Lynch à la guitare et Sam Innis à la batterie, pour vraiment tous les nommer. Il y a un point qui est assez intéressant dans tout ça. Ils se sont rencontrés à la Ridgewood High School, tu me diras, on s'en fout. Non, ce qui est important, c'est la géolocalisation de cette école. C'est dans le New Jersey, comme leur nom ne l'indique pas du tout, puisque ça sonne un peu soleil quand même, mais pas tellement New Jersey comme son.
Pas trop.
Ouais, ça sonne presque plus surf music.
Californien, ouais.
Oui, mais à la différence, par exemple, de certains groupes de surf music, pour ne prendre par exemple que les Beach Boys, il y a un aspect beaucoup plus mélancolique dans leur musique, et ce qui justifie peut-être le côté New Jersey, là, pour la peine.
On va découvrir ça. Le high school, d'ailleurs, tu en parlais, le high school, c'est le lycée aux États-Unis. Ils ont commencé jeunes. Quelles étaient leurs influences à l'époque ?
Alors, pas du tout
Pas du tout la surf music ?
Non, pas du tout. Ils écoutaient Wizard, Beetlejuice, Pilt and Pavement. En fait, en somme, les grands groupes des années 90. Pixies aussi, en fait, c'est des enfants de leur siècle en termes d'oreilles. Ouais. Mais ils étaient effectivement plus inspirés par une sorte d'indie rock très grunge presque à certains égards.
On avait parlé de Pixies notamment.
Ouais, de Pavement aussi, on a fait une
Pavement,
émission.
Et de Pavement, c'est vrai, tu as raison.
Tu avais regretté, mais on l'a fait cette émission et moi j'étais très heureux. Voilà, ils auront commencé par ça, peut-être parce qu'ils étaient des ados un peu énervés et que donc dans les années 90 c'était bien d'écouter ça. Ils changeront leurs amours relativement rapidement.
Et Gauthier, même s'ils ont suivi des voies différentes d'un point de vue scolaire, j'entends, ils ne se sont jamais quittés, toujours rattrapés par leur passion pour la création musicale.
C'est marrant parce que c'est un espèce de petit côté groupe justement à l'ère du numérique, puisqu'ils vont continuer chacun les uns les autres à composer. Je crois qu'il y en a un qui est à Seattle, l'autre qui est sur la côte ouest, enfin ils sont vraiment ils sont éloignés les uns les autres, mais ils continuent à s'envoyer des petits sons, et notamment Martin Courtney, donc notre potentiel agent immobilier,
leader du groupe,
faisait des démos qui étaient tellement bonnes qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être lieu de se retrouver à Ridgewood une dernière fois en 2008 et de voir s'il n'y avait pas moyen de composer 2-3 trucs.
Donc ils rentrent, on est d'accord, ils rentrent au Berkeley en 2008 et l'année suivante, boum, ils sortent un premier album. Tu peux nous en parler vite fait ?
Ça va très très vite. Le 17 novembre 2009, effectivement, ils sortent leur premier album. De fait, les démos de Courtney devaient être extrêmement efficaces. Et je dois bien te le dire, moi, mon amour pour ce groupe est apparu immédiatement dès ce premier album et j'aurais presque envie de te dire presque dès la première piste avec Beachcomber. Donc je voudrais te faire écouter un extrait parce qu'il y avait déjà tout ce qu'allait devenir Real Estate, c'est-à-dire une espèce de battle entre deux petites guitares qui sautillent et une capacité exceptionnelle à ce que j'appelle moi relever une mélodie, c'est-à-dire tu casses la mélodie antérieure, là on l'a pas, on va commencer directement au break, et petit à petit tu remontes une architecture musicale absolument somptueuse. Extrait de Beachcomber, Théo, pour que tu t'en rendes compte. La laisse en fond, mais allez écouter Beachcomber, ça ce n'est qu'un extrait de cette chanson qui continue, on va l'entendre un peu derrière, à se relever en termes de mélodie. C'est fabuleux.
C'est très très mignon, je ne peux que le reconnaître. Gauthier, comment est-ce qu'ils l'ont composé cet album ?
Rapidement, bien évidemment, et dans le sous-sol de la maison des parents de Courtenay, tout est affaire de maison, d'immobilier dans ce groupe.
Décidément.
Oui. Donc dans le sous-sol, avec parfois des petites soirées comme on peut en attendre d'un jeune groupe de rock, par exemple la chanson Suburban Beverage sera composée farcie à la vodka au bord de la piscine dans le jardin.
Voilà. Formidable.
Beaucoup de groupes ont composé comme ça.
Oui. Pour le meilleur comme pour le pire, mais là c'est pour le meilleur.
Certains ils sont morts au bord de leur piscine.
Et oui. Ouais. On reparlera pas des Stones.
Non mais on pourra faire une émission sur la piscine dans le rock.
C'est pas idiot.
Mais oui, ça va être très compliqué à préparer. Par contre, il y aura beaucoup de travail.
C'est pas idiot. Gauthier, je reviens sur ce premier album de Real Estate. Quelle a été la réception critique de ce petit bijou ?
Alors, j'aurais tendance à dire satisfaisante pour un album, qui était effectivement satisfaisant, intéressant, ponctué de moments de grâce absolue comme Beachcomber, avec des moments un peu plus lourds. C'est un premier album. Une moyenne chez Metacritic de 79. Les premiers qui les verront, comme très souvent, surtout quand c'est aux États-Unis, c'est Pitchfork qui les gratifiera d'un 8,5. Et je me permets de les citer. Ils indiqueront, malgré les titres de chansons estivaux et les associations de Beach Ball qui pourraient suivre ces gars, cette musique transcende la notion de saison. À l'intérieur du ténor couvert par exemple de Black Lake, une des chansons, ouais, et des montées aériennes de Green River, on avait aussi entendu les montées aériennes de Beachcomber, il y a beaucoup plus en jeu ici que ce qui se passe entre le mois de juin et de septembre. Il y a une espèce d'impressionnisme. C'est un groupe dont la chimie et dont la technique suggère qu'il y a bien plus à venir. Effectivement, Pitchfork avait raison, il y avait bien plus à venir, et je rejoins absolument leur analyse. Il y a bien plus qu'un simple petit côté surf music de petites guitares électriques un peu scintillantes. Il y a une mélancolie, il y a une profondeur chez Real Estate qui est absolument fascinante.
Une critique en 2009, en tout cas prophétique.
Comme souvent avec Pitchfork.
Ouais, non, mais c'est. Faut leur reconnaître ce talent. Les amis, il est temps de marquer une petite pause dans cette thérapie. On va le faire en s'écoutant la 9e piste de Days, Younger Than Yesterday. Chers amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, on vous parle d'un sympathique groupe américain, Real Estate. On va maintenant vous parler du deuxième album, intitulé Days. Souvenez-vous, le premier était sorti en 2009, on file désormais en 2011. Gauthier, raconte-nous s'il te plaît l'enregistrement de cet album.
Alors, tu sais que je suis
toujours extrêmement attaché à expliquer justement les circonstances d'un enregistrement, parce que de fait ça a un impact très important sur la qualité de l'album. Et ce premier album de Real Estate avait été composé, on l'a dit, très vite déjà, à peine un an après la création du groupe, avec notamment beaucoup de démos qui avaient été envoyées par le leader du groupe, à des époques peut-être un peu différentes, etc. Et donc il y avait lieu de penser que si ces gars se réunissaient un bon coup et composaient un bon coup dans une espèce d'unité spatiale et temporelle le temps d'un album, ils allaient faire un truc absolument démentiel. Et de fait, ils y sont arrivés. Ils se sont enfermés 5 mois dans une grange isolée à New Platz, dans l'état de New York. Alors je pense que c'est dans l'état de New York, donc c'est de l'autre côté.
Puisque... Ah oui, c'est à Seattle.
Ouais, ouais, voilà.
Non,
c'est l'état de Washington qui est à Seattle.
Exactement.
Voilà. Bon, je t'ai induit dans de l'erreur, mon Pontéo. Et en résulte, si tu veux, bien évidemment, un bijou absolu de délicatesse et de finesse. Cet album est à recommander vraiment absolument. Et avec quelque chose de très intéressant, toujours chez Real Estate. Une approche qui peut paraître extrêmement simpliste, il le chante même, je cite les paroles d'une des chansons, si cela prend tout l'été juste pour écrire une simple chanson, il y a trop de choses sur lesquelles se concentrer, de toute évidence il y a quelque chose qui ne va pas, du genre si tu dois faire une chanson, ça doit aller relativement vite, ça doit être créé, ça doit...
Efficacité.
Voilà, ça doit émaner de toi. Et derrière cette approche profondément simpliste, et on pourrait penser parfois que leur son est assez simpliste, parce que c'est souvent deux guitares, une basse, une batterie, on n'en parle plus, avec des mélodies assez lentes, assez tranquilles, il y a finalement beaucoup plus d'intelligence qu'il n'y paraît et beaucoup plus d'atmosphère. Pour te retranscrire ça, Théo, un tout petit extrait, si tu le vois bien, de la chanson Green Hessless.
Ah bah vas-y. D'un point de vue musical, Gauthier, c'est une ambiance assez épurée, mais comme tu le disais, pas simple pour autant.
Non, c'est beaucoup notamment d'accords de guitare qui se répondent, même pas d'accords, de petites notes qui se répondent. On parlera ce mois-ci d'un autre éminent guitariste qui nous a quitté il y a peu de temps, qui avait aussi cette faculté de jouer en réponse avec l'autre guitariste. Et tout est basé autour de ça. Allez écouter aussi par exemple le All the Same, qui est extrait de l'album Days, qui a un break extraordinairement entêtant. Pourtant basé sur une ligne de guitare pas forcément extrêmement complexe.
Non.
Comprendre, il n'y a pas besoin de jouer comme Jimi Hendrix à la guitare pour faire
Exactement.
Des choses absolument harmonieuses.
Exactement. Et Gauthier, est-ce que ce petit frère, donc Days, suit le chemin du précédent aux yeux de la critique?
Alors, ça sera un carton. Un carton pour du Rockin' Day, mais on parle pas d'une vente à la Michael Jackson. Notamment toujours grâce au magazine Pitchfork qui le classera numéro 13 de ses 100 meilleurs albums de la décennie.
Ouais.
Donc une reconnaissance critique indéniable.
Ouais, d'après Pitchfork, on peut y aller les yeux fermés mais les oreilles bien ouvertes. Et Gauthier, comme si ça ne suffisait pas, 3 ans plus tard, en 2014, les loulous reviennent avec un troisième album intitulé Atlas.
C'est pas fini, effectivement, et ça reste tout aussi bon. Alors, petit fun fact aussi assez rigolo quand on parle de musique des années 90 et aussi début des années 2000. Mmh. C'est un album qui avait failli être produit par Jim O'Rourke, excuse-moi son nom.
Qui est-il ?
Alors, j'aurais vraiment été très 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 curieux de voir le résultat, puisque Jim O'Rourke, pour ceux qui ne connaissent pas, était le producteur d'un album absolument monumental et absolument légendaire des années 90, ou début 2000, donc je crois qu'il était sorti à la fin des années 90, à savoir le Yankee Hotel Foxtrot de Wilco, qui est un album qui a quasiment tous les top 10 de cette période-là. Mmh. C'est un album absolument fabuleux. Malheureusement, c'est pas lui qui sera aux manettes, ça sera Tom Schick, qui lui aussi a produit Wilco, mais des albums nettement moins bons. Donc j'aurais aimé imaginer ce qu'aurait été Atlas si c'est Jim O'Rourke qui aurait été derrière les platines.
C'est un album très chouette.
C'est un album remarquable. Voilà. Les trois premiers albums du Real Estate, et particulièrement Days et Atlas, le 2 et le 3, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas une chanson à enlever des albums. Donc
Gauthier, on le dit, il faut noter quand même l'homogénéité de ce début de carrière pour Real Estate. C'est encore Atlas, un album rempli de petits bonbons.
C'est même presque plus que des albums remplis de petits bonbons. Ce sont des albums que tu peux écouter de la première piste à la dernière piste sans jamais te dire qu'il faut retirer une des chansons. Et on parlait de Michael Jackson tout à l'heure, j'avais toujours été beaucoup frappé, tu sais, quand on avait parlé notamment de Thriller. Oui. Michael Jackson avait dit, mais je comprends pas pourquoi les gens font des albums avec des trous d'air à l'intérieur.
Oui. Ben,
je veux faire que des tubes. Mm. Et ben, Days Atlas, alors, Realista n'était pas une machine à tubes.
Non, voilà. On en est loin.
Mais ce sont des gens qui savent faire un album de bout en bout sans une baisse de régime.
Homogène.
Tout était parfait.
Ouais. Et Gauthier, malheureusement, comme d'habitude, un peu avec les groupes de rock, quand tout va bien, il faut que ça parte en sucette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2016?
Ça part en sucette de façon extrêmement modérée, mais ça part en sucette quand même de façon très importante artistiquement. Pourquoi? Parce que le 25 mai 2016, Julian Lynch va remplacer, je vous ai dit que dans le groupe il y avait Julian Lynch actuellement, mais il a remplacé un autre gars qui s'appelait Matt Mondanil. Pardon, excuse-moi, je suis fâché avec les noms aujourd'hui. Je prononce bien mieux les noms de gourous dans les émissions sur les Beatles que les noms d'anglais. Alors, ça n'a pas une importance fondamentale pour l'histoire du groupe, parce que le groupe a continué à fonctionner. Ça a une importance, par contre, indubitablement dans l'aspect artistique de ce groupe. Pourquoi ? Parce que vous l'avez entendu dans les extraits qu'on s'est écoutés depuis tout à l'heure, le jeu de guitare et la capacité de se répondre de deux guitares, j'ai presque envie de dire la symbiose entre les deux guitaristes, était absolument au cœur de la musique de Realist State. Quand bien évidemment tu perds un de tes deux guitaristes, ça change un peu. On en avait parlé aussi pour Blur avec Think Tank, quand
Exactement.
Graham Coxon était parti.
Exactement. Voilà.
Aujourd'hui, le groupe Realist State continue à faire des albums de bonne facture, mais avec un son nettement plus lourd, j'aurais tendance à dire, que quand il y avait Mondanil derrière l'une des guitares.
Et alors, Mondanil est soit
Mondanil, oui, merci.
Voilà, toi. Matt Mondanil est soit dit en passant toujours crédité comme guitariste sur leur fiche Wikipédia française.
Qui est à la bourre de quelques années alors.
Qui ne fait aucune mention de Julian Lynch.
Et ben, qui est à la bourre de 6 ans.
Et comme tu le disais, avec le départ de Mondanil, on va perdre la légèreté de ses compositions. On va avoir l'occasion de s'en rendre compte, puisqu'on va se quitter, Gauthier, en s'écoutant
Gone,
exactement, qui est paru sur The Main Thing, l'album.
Ouais, qui reste une bonne chanson quand même.
Oui,
mais vous allez voir, c'est moins révoltant.
Ouais, voilà, c'est beaucoup moins léger que ce qu'on a pu écouter depuis le début de l'émission. On peut s'apercevoir que la légèreté s'est envolée. Merci les amis de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que cette émission, comme toutes les autres, est disponible en réécoute sur le site ou l'application de Radio Présence, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, que Gauthier a déjà un peu teasé, puisqu'on vous parle d'un autre guitariste, et cette fois c'est Tom Verlaine.
Exceptionnel guitariste.
Donc ça, c'est la semaine prochaine. On vous souhaite une très belle semaine à tous. Moi, je te souhaite une très belle semaine à toi, Gauthier.
Ah, mais à toi aussi, mon bon Théo.
Merci, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.